Bon réveil sur Radio Classique, il est tout juste 6h.
La matinale écho de Radio Classique avec Stéphane Pedrazzi.
Et avec Lénaïque Monnier pour le premier journal.
Sébastien Lecornu renonce au vote. Le budget passera par la méthode forte. Conseil de la paix pour Gaza, il a été formé. Nous verrons quelles missions lui sont attribuées. Et puis les sushis n'ont plus la cote. Les ventes ont chuté. Les ventes de sushis ont chuté de 30% en 2 ans. Je vais y arriver.
Et le gouvernement a également des soucis avec la réforme de l'assurance chômage. Les négociations doivent reprendre à la fin du mois. Mais les partenaires sociaux n'ont toujours pas obtenu de réponse du gouvernement sur leurs exigences. On y revient en détail dans le journal de l'économie. Face à l'impasse du budget, le gouvernement estime qu'il est impossible de l'adopter par le vote.
Oui, et reste donc la manière forte. Hein. Aujourd'hui ou d'ici mardi, le Premier ministre pourrait finalement revenir sur son engagement à ne pas recourir au 49-3. Sébastien Lecornu prendrait donc le risque d'engager sa responsabilité, mais il hésite avec une autre piste encore plus explosive, celle de faire passer le budget par ordonnance. Autrement dit, sans consulter le Parlement sur le fond comme sur la forme. Lauriane Toulmont.
Des ordonnances pour faire passer le budget, cet outil jamais utilisé est un levier profondément antidémocratique, dénonce le député PS Philippe Brun.
Les ordonnances sont inacceptables, ce serait donc une forfaiture démocratique, un coup d'État rampant. Si le gouvernement faisait cet usage, je déposerais, en tout cas signerais une motion de censure et je signerais aussi la destitution du président de la République. Je crois que ça interroge des valeurs supérieures. C'est un précédent insupportable et particulièrement dangereux.
L'article 49.3 est un moindre mal pour le socialiste qui espère encore négocier un accord de non-censure avec le gouvernement. La censure, c'est un risque qui explique les hésitations du Premier ministre, selon le député Renaissance Jean-René Cazeneuve.
C'est mieux d'avoir un 49-3 sur lequel on peut discuter le contenu. Et si on parle ordonnance, ça veut dire que c'est a priori le texte initial, sans modification. Si vous faites un 49-3, il y a nécessairement une motion de censure avec un risque qu'elle soit adoptée et donc qu'on n'ait pas de budget. En revanche, s'il y a une ordonnance, on a un budget. Il y aura une motion de censure, mais quel que soit le résultat de la motion de censure, on aura un budget. Donc ça a quand même beaucoup de valeur.
Le gouvernement souffle le chaud et le froid et promet de faire des propositions. Aujourd'hui, un compromis est possible, assure Matignon.
Et d'autres s'impatientent, pas les politiques, mais les patrons. On apprend ce matin dans Le Parisien que le mouvement Trop c'est trop, issu d'une tribune au mois de novembre, s'étoffe. De 200 signataires, le groupe est passé à 2000 chefs d'entreprise, TPE, PME, ETI. Un mouvement apolitique, mais qui compte bien participer au débat électoral. Et puis au procès en appel des assistants du FN, le Parlement européen se dit victime d'un système. Le Parlement dément tout manque de clarté dans ses règles. Dès ses premiers mots à l'ouverture de l'audience mardi, Marine Le Pen avait donné le ton du procès, axant sa défense sur une présumée défaillance de l'administration du Parlement qui n'aurait pas joué son rôle d'alerte sur les contrats litigieux.
6h03 sur Radio Classique, on passe à l'actualité à l'étranger. Le plan soutenu par Washington pour mettre fin à la guerre à Gaza est entré dans sa deuxième phase.
Oui, avec la création d'un comité palestinien de gouvernance et la formation d'un conseil de la paix annoncé cette nuit et présidé par Donald Trump. Bonjour Pierre Pilet.
Bonjour.
Des questions restent néanmoins en suspens.
Oui, parce que Donald Trump répète que le Hamas doit être démilitarisé. Il réclame la remise de toutes les armes et le démantèlement de tous les tunnels. Le mouvement terroriste palestinien propose de rendre une partie de son arsenal. L'un de ses anciens chefs évoque un gel du nombre d'armes ou leur stockage, mais aucune de ces options n'est acceptable selon Israël. Autre enjeu, le retrait militaire total de l'armée israélienne de la bande de Gaza, prévu à terme, mais il n'y a pas de calendrier. En attendant, le Conseil de la paix a été formé, sa composition va être annoncée prochainement, selon Donald Trump. Ce Conseil de la paix va superviser un comité palestinien temporaire et apolitique, composé de 15 membres. Un ingénieur civil, ancien haut fonctionnaire de l'autorité palestinienne, a été choisi pour le diriger. Il va devoir lancer la reconstruction d'un territoire en ruine. Rappelons que le Hamas est au pouvoir dans la bande de Gaza et que les combats continuent malgré l'accord de cessez-le-feu. Par ailleurs, il reste une dépouille d'otages à remettre à Israël. L'État hébreu accuse le Hamas de retarder la remise de ce corps. Le mouvement terroriste palestinien affirme de son côté qu'il a du mal à le retrouver à cause des destructions et du manque de matériel.
Pierre Pilet, et puis Donald Trump sur tous les fronts. Frappe au Nigeria, opération commando pour arrêter Nicolas Maduro au Venezuela. Velléité d'annexion du Groenland et de Cuba. Son appétit international s'exprime tous azimuts en ce début d'année. Des démonstrations de force pas toujours bien perçues d'ailleurs par les Américains eux-mêmes qui se préoccupent plus de leur pouvoir d'achat. Mais pour Donald Trump, cette stratégie pourrait être payante. Il pourrait assouvir ses convoitises pour un coût modique. Laurie Kenton est spécialiste des États-Unis.
pour lui, le Venezuela n'est pas vraiment un problème parce que ça va s'autofinancer par le pétrole. Cuba, ça va s'autofinancer parce qu'il voit Cuba comme un fruit mûr qui, privé des subsides du Venezuela, va finir par tomber tout seul sans rien faire. Donc, ça ne va rien coûter. Et l'idée un peu générale pour le Groenland, c'est que de toute façon, les Européens ne vont rien faire. On va trouver un deal parce qu'on est Donald Trump et qu'on trouve des deals et que le Groenland va finir par y trouver son intérêt et que ça ne va pas coûter grand-chose parce qu'on va finir par l'obtenir.
Et puis on évoquait le Venezuela. Maria Corina Machado a offert à Donald Trump sa médaille du Nobel de la paix. Une médaille peut changer demain, mais pas le titre d'un lauréat. Voilà ce qu'a précisé tout de même le comité. Donald Trump qui a salué de sa part un geste magnifique.
La précision à toutes fins utiles. Après plus de 25 ans de négociations, le traité de libre-échange entre l'Union européenne et quatre pays du Mercosur sera signé demain au Paraguay.
Malgré l'opposition de la France, mais avant cette signature officielle, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, fait un détour par Rio aujourd'hui. Le Brésil est le pays d'Amérique du Sud qui a le plus à gagner de cet accord. Voilà ce que nous explique Quentin Mathieu. Il est économiste au sein du think tank Agridé.
Le Paraguay et l'Uruguay ont quelques atouts à valoir sur le Mercosur, notamment comme le miel, mais il y a certaines filières également qui ont des craintes vis-à-vis d'accords. Je pense notamment à la filière vin en Argentine, qui jouit d'une position prédominante sur l'écosystème d'Amérique du Sud et qui pourrait effectivement voir la concurrence venir des entreprises européennes sur le secteur du vin. Donc cet accord, effectivement, il fait des gagnants et des potentiels perdants, mais clairement, les gains aujourd'hui sont majoritairement concentrés sur l'économie du Brésil par rapport aux autres pays du Mercosur.
Et puis justement, des déchets déversés sur la chaussée à Lyon, l'accès au port de Dunkerque filtré, des opérations escargots en Meurthe-et-Moselle, la mobilisation des agriculteurs, elle, s'est poursuivie en France. Autre motif d'inquiétude pour les agriculteurs, alors que la dermatose nodulaire contagieuse perd du terrain, c'est une autre pathologie qui les inquiète. La tuberculose bovine, des agriculteurs ont manifesté lundi dans l'Orne pour protester contre une politique mise en place pour enrayer cette zoonose qui est transmissible à l'homme. Rémi Pfister.
La tuberculose bovine est une maladie bactérienne qui peut contaminer l'homme, notamment par le lait cru chez les animaux. Elle évolue lentement et passe souvent inaperçue, explique la vétérinaire Jeanne Brugère-Picou.
L'animal peut maigrir du fait de l'évolution chronique de cette maladie, mais quelquefois les troubles ne sont pas tellement visibles. Ça évolue très insidieusement. Généralement, on découvre la lésion à l'abattoir. Ce sont souvent des lésions pulmonaires ou digestives. Et quand on découvre une lésion à l'abattoir, il est vraisemblable qu'il y a d'autres animaux qui ont été contaminés.
Dans l'Orne, les contrôles se multiplient. Les vaches sont testées et en cas de suspicion, abattues. Mais sur le terrain, Christophe Davy, éleveur d'une quarantaine de vaches laitières, dénonce des tests jugés peu fiables et des abattages uniquement dictés par des impératifs économiques.
Moi, j'ai abattu 4-5 bêtes déjà sur la ferme, ils ne l'avaient pas. C'est bien pour vous montrer que les tests ne sont pas fiables. 95% des cas, à chaque fois, ils sont négatifs. En fait, les abattages, c'est juste pour que la France soit indemne de la tuberculose, parce qu'un pays qui n'est pas indemne de la tuberculose ne peut plus exporter. C'est absolument pas sanitaire. Quand on fait des abattages clôtos, on détruit toute l'immunité d'un troupeau qui s'est construite de génération en génération. C'est là qu'est le scandale.
Pour l'instant, près de 1500 bovins sont concernés par des abattages. Mais la campagne de dépistage ne fait que commencer. D'autres foyers pourraient encore être découverts dans les semaines à venir.
En bref, depuis le 10 décembre en Australie, les moins de 16 ans sont interdits d'accès à la plupart des réseaux sociaux. C'est une première mondiale. Et bien, un mois plus tard, un premier bilan, les géants de la tech ont bloqué 4,7 millions de comptes après cette décision.
Et puis, c'est la fin d'une époque, Lénaïque. Il y a quelques années, le plateau de sushi s'invitait à notre table du déjeuner. C'est presque terminé.
Oui, la cuisine japonaise fait face à une crise sans précédent. Les ventes ont baissé de 30% en deux ans. C'est une chute brutale. Autrefois en plein essor, les prix élevés et la concurrence d'autres street food fragilisent les restaurateurs, Lucie Dupressoir.
Dans le centre de Paris, le chiffre d'affaires du restaurant Sushida a baissé de presque 40% l'année dernière. Ying Ying Shu, la patronne depuis 2009, ne voit plus ses habitués, des salariés des bureaux voisins qui venaient déjeuner.
Ils mangent beaucoup moins qu'avant. Par exemple, avant c'est une fois par semaine et maintenant c'est une fois par mois.
Et c'est la première fois qu'il y a une baisse de clientèle comme ça ?
Oui, bien sûr. C'est un grand choc.
Le rapport qualité-prix de la restauration japonaise n'est plus à la hauteur, expliquent ces anciens amateurs de sushi. sushis rencontrés dans le quartier. 35 euros le panier moyen de sushis contre 15 euros pour une pizza.
Le prix des sushis, je trouve, a quand même considérablement augmenté. En dessous de 15 euros, on n'avait pas grand-chose à manger en termes de sushis.
C'est cher et de l'autre côté, c'est pas partout qu'on trouve une bonne fraîcheur vu que c'est du poisson cru. J'ai déjà eu malheureusement une intoxication alimentaire, donc j'en mange plus.
Il y a aussi l'essor d'autres restaurations asiatiques. Bernard Boutboul, président de Jira Conseil, expert en restauration.
Notamment la cuisine coréenne, thaï et la cuisine vietnamienne qui sont savoureuses, plus saines, nettement moins chères. Ces trois cuisines-là prennent évidemment des parts de marché au repas sushi.
Les leaders Planète Sushi et Sushi Shop ont dû fermer ou céder certains de leurs restaurants ces deux dernières années.
Lucie Dupressoir pour Radio Classique.
Merci beaucoup, c'était le journal de Lénaïque Monnier. Prochaine édition à 6h30, ce sera avec Charles Bonner. À suivre dans quelques minutes, l'invité de Comment j'ai réussi. Ce matin, on va parler de parfums, des parfums 100% naturels. C'est la tendance du moment. On y revient dans quelques minutes, juste après le rappel des titres.
Courrier international présente Goodbye America. En un an, à la Maison-Blanche, Donald Trump a sapé les fondements de la démocratie américaine. Une dérive autoritaire accompagnée d'une révolution culturelle qui bouleverse le pays. Comment en est-on arrivé là? Comment les Américains le vivent-ils? Un hors-série de Courrier international, en vente chez votre marchand de journaux.
La matinale écho de Radio Classique avec Stéphane Pedrazzi.
Et à la une de l'économie, le gouvernement annonce la fin des débats sur le budget à l'Assemblée nationale. Les discussions qui devaient avoir lieu aujourd'hui et lundi ont été annulées. Le gouvernement s'apprête finalement à passer en force. La ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, l'a confirmé. Deux options sont désormais sur la table. Une ordonnance budgétaire ou l'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution. L'inflation continue de ralentir en France. Elle est retombée l'an dernier à 0,8% selon les chiffres de l'INSEE. Très en dessous des 2% qui avaient été enregistrés en 2024. C'est aussi très en dessous de la moyenne des autres pays européens. Après 25 ans de négociations, le traité de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur sera signé demain au Paraguay. Malgré l'opposition de la France, le Brésil fait partie des grands gagnants de cet accord. On y reviendra dans le journal de l'économie à 6h45 avec Zoé Pallier. Après deux années de récession, l'Allemagne a finalement retrouvé le chemin de la croissance, plus 0,2% l'an dernier. Ça reste évidemment très fragile. Le secteur industriel, qui est l'un des principaux moteurs de l'économie allemande, est toujours en grande difficulté. Bonjour Eric Mauban.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Le patronat allemand continue de s'inquiéter et réclame d'ailleurs des mesures de soutien de la part du gouvernement.
D'après la Fédération de l'industrie allemande, jamais le pays n'a traversé une crise aussi profonde depuis l'après-guerre. Elle prévoit pour cette année un recul de 2% de la production. Ce serait le quatrième repli consécutif. Les chiffres sont particulièrement inquiétants dans deux secteurs de poids que sont l'automobile et la chimie. Tous deux subissent de plein fouet la baisse de la demande mondiale, la hausse des prix de l'énergie, les droits de douane américains et une concurrence de plus en plus vive de la Chine. Le gouvernement allemand veut enrayer cette dégradation. Il a pour cela demandé à la Commission européenne l'autorisation de mettre en place pour une durée de 3 ans un prix subventionné de l'électricité. L'exécutif veut par ailleurs réduire la bureaucratie et mettre en place un fonds spécial de 500 milliards d'euros financé par l'endettement au profit des infrastructures. Le patronat réclame davantage d'efforts, une baisse des impôts et une accélération des accords de libre-échange, notamment avec l'Inde et l'Asie du Sud-Est.
Merci beaucoup Eric Mauban. Un Français sur deux voudrait changer de travail en 2026. C'est le résultat d'une enquête YouGov réalisé sur un très large échantillon de 50 000 personnes. C'est un résultat un peu surprenant dans le contexte économique actuel. Les salariés ont généralement tendance à moins prendre de risques lorsque l'environnement économique est plus fragile. Nous reviendrons sur ce chiffre juste avant le journal de 7h avec Ludovic de Gromard, cofondateur de Chance. C'est un spécialiste de l'orientation professionnelle des adultes. Bientôt 6h14 sur Radio Classique. L'invité de Comment j'ai réussi, Valérie Demars. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la fondatrice d'Aimé Demars, vous êtes parfumeur, vous créez des parfums. Et vous aussi, vous avez changé de métier au cours de votre carrière, on va en parler. Votre histoire, c'est un rêve d'enfant, puisque depuis toute petite, vous rêviez, paraît-il, de créer des parfums, c'est vrai?
Et oui, c'est vrai. À 12 ans, j'ai dit à mes parents que je voulais être parfumeur.
Oui.
Et ils étaient agriculteurs. Vous voyez, ça n'avait pas vraiment de rapport, si ce n'est le lien à la nature, aux plantes et à la terre. Et c'est pourquoi j'ai donné le nom de la marque, le nom de ma grand-mère, Aimée de Mars, parce que c'est elle qui m'a transmis ce caractère sacré de la nature.
Alors, vous avez mis du temps avant de vous lancer. Vous avez d'abord travaillé pendant 20 ans dans l'industrie des cosmétiques. Et puis, à l'âge de 40 ans, vous avez enfin franchi le pas. Pourquoi avoir attendu si longtemps ?
D'abord, j'ai appris mon métier et à 40 ans, j'ai eu un ennui de santé qui a fait me remettre en question et me dire que finalement, la vie était peut-être courte et cela m'a rappelé mon rêve d'enfant.
Dans l'élaboration de vos parfums, vous avez une approche particulière. Vous dites on ne choisit pas un parfum pour les autres, mais pour soi-même, pour se sentir bien, pour être en harmonie avec soi-même.
Oui, c'est la spécificité de la marque. En fait, moi, je crée qu'avec des matières naturelles, 100% naturelles. Donc, par exemple, toutes les belles fleurs, les roses, le jasmin, l'ylang-ylang et les bois. Et ces plantes, elles ont des actions sur nos émotions. Et c'est l'aroma parfumerie, c'est aussi l'olfactothérapie. On va les respirer, on va se sentir bien. Donc c'est pour ça que je crée des parfums avant tout pour soi, plutôt que juste pour sentir bon pour les autres.
Alors, pourquoi 100% naturel ? On imagine pour des raisons de santé, car il n'y a pas de perturbateurs endocriniens. Mais aussi, vous dites, c'est pour bénéficier des bienfaits des huiles essentielles, puisque vous en utilisez beaucoup.
Oui, j'utilise beaucoup d'huiles essentielles. Par exemple, on va respirer un matin où on est un peu triste, on va respirer l'huile essentielle de bergamote et on va avoir le sourire aux lèvres. Vraiment, c'est très très efficace.
Ah, il faudra que j'essaye alors.
Oui, je vous en ai apporté d'ailleurs.
Est-ce qu'il est possible de réaliser des parfums sans aucun additif, sans aucun conservateur, tout en garantissant sa stabilité ?
C'est vrai que le 100% naturel, c'était un défi pour la tenue notamment.
Et pour toute l'industrie des cosmétiques d'ailleurs.
Oui, c'est vrai que c'est un défi en cosmétique pour les soins, on va utiliser des conservateurs naturels. En parfumerie, ce ne sont pas les conservateurs, ce sont des matières qui vont nous aider à fixer pour le sillage. Alors, on n'utilise pas les muscles polycycliques, par exemple, mais on va trouver des alternatives. On a planté un champ d'iris parce que l'iris, le rhizome, va nous aider à la tenue. C'est une molécule comme le santal qui va fixer, qui est lourde et qui va rester sur la peau tout au long de la journée.
Donc c'est un peu technique, mais sans ces composants du parfum, il ne tient pas dans la durée, c'est ça ?
Voilà, c'est pour ça que ces matières naturelles vont nous aider à la tenue et au sillage.
On va parler un peu technique. Comment est-ce que vous créez techniquement vos parfums? Ça ne s'improvise pas. Est-ce que vous travaillez avec un nez, une personne qui a justement la technicité et...
C'est moi le nez.
C'est vous le nez?
Oui. Alors en fait, l'idée, elle vient souvent...
C'est un métier difficile à apprendre.
Oui, c'est un métier passion.
Oui.
Mais comme le vôtre, il n'est pas si facile le vôtre.
Je ne sais pas.
C'est un métier passion. Et en fait, un parfum, l'idée vient... c'est pas doux. D'un voyage, d'une rencontre, des plantes. Et puis, je vais commencer à créer un accord. En fait, le métier de la création de parfumerie est très proche de la musique. Donc, on va parler d'accord. Un accord, c'est trois notes. Une note de tête, une note de cœur, une note de fond. Et puis, on va commencer à, comme ça, composer, élaborer quelque chose de plus facetté jusqu'à ce que le parfum se termine.
Qui sont vos clients ? Quelle est votre cible ?
Alors, 90% des femmes ?
Oui.
Et puis, à la fois les jeunes femmes qui sont peut-être sensibles justement aux produits naturels et qui ne veulent plus de perturbateurs endocriniens parce qu'elles sont conscientes que cela peut avoir des problèmes de, engendrer des problèmes de fertilité ou de cancer, notamment hormonaux. Et puis, les femmes un peu plus âgées qui sont aussi en recherche de produits de bien-être. Donc voilà, en fait, c'est assez large, hein, je dirais de 25 à 70 ans.
Comment est-ce que vous êtes distribué ? Où est-ce qu'on peut acheter vos parfums ?
On peut trouver les parfums en magasin bio, institut de beauté et pharmacie, et également sur aimedemars.com.
Alors ça, c'est un point intéressant. C'est difficile d'acheter en ligne un parfum qu'on ne connaît pas. Vous avez créé un kit découverte pour permettre justement à vos clients de choisir. Comment est-ce que ça fonctionne ?
Oui, c'est un kit d'échantillons. Donc chaque jour, les personnes vont pouvoir tester un parfum jusqu'à trouver le leur. Et en même temps, il y a aussi un aromatest sur le site qui est un petit test de personnalité qui répond en fonction de vos goûts, de vos préférences, avec une dizaine de questions.
Quel type de questions ?
Voilà, la question, ça peut être... quelle couleur vous préférez, quel type de vacances vous aimez, quelle est votre personnalité, on parle de vous comment, vous, voilà, et quelle pierre vous aimez, quel
vous
type de fleurs.
Vous reconstituer les pièces du puzzle.
Exactement, parce que comme j'ai créé les parfums en fonction des personnalités de chacun, et chaque parfum a une promesse plus particulière, le parfum va être proposé à la personne, et il y a très peu finalement d'échanges. Parce qu'on offre la possibilité de changer le parfum, mais il y a très peu de demandes d'échange.
Le parfum correspond à une personnalité, il correspond aussi à des tendances. Quelles sont les tendances actuelles ?
Alors les tendances actuelles, c'est le toujours plus fort. Oui, les gens ont envie que vraiment leur sillage semble à des maîtres.
Ça n'a pas l'air de vous ravir.
Non, parce que Comme je vous expliquais que pour moi, le parfum, il est avant tout pour soi, pour se sentir bien. Je crois que c'est bien de respecter aussi l'espace pour l'autre. Et c'est un petit peu dommage d'envahir l'autre.
Ouais. C'était une vraie rupture par rapport à il y a quelques années où les parfums se voulaient plus discrets, plus intimes.
Oui. C'est vrai que là, en ce moment... Alors, je ne sais pas si c'est parce que les gens ont besoin... Je ne sais pas si s'ils se sentent moins bien, ils ont besoin de... ça les rassure, je ne sais pas si c'est dû à cela. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a une tendance de toujours sentir encore plus fort.
Merci beaucoup d'être venue ce matin nous expliquer votre métier. Valérie Demars, fondatrice d'Aimer Demars, parfumeur, donc née. Vous êtes créateur de parfums qu'on peut retrouver donc dans les magasins bio, les instituts de beauté, mais aussi en ligne sur le site d'Aimer Demars.
Merci beaucoup.
Merci d'être venue ce matin. Il est 6h20. Nathalie Janson nous a rejoint.
Stéphane Pedrazzi sur Radio Classique.
Et comme tous les vendredis, Nathalie nous propose un portrait.
Avec GSF Propreté et Services, acteur du service aux entreprises, et sa filiale Pénélope, leader de l'accueil.
Les classiques de l'économie avec Nathalie Janson. Bonjour Nathalie.
Bonjour Stéphane.
Professeur d'économie à la Neoma Business School, ce matin vous nous proposez un portrait de Gary Becker, prix Nobel d'économie en 92. Il a profondément bouleversé la science économique sans jamais chercher la provocation médiatique ni les grandes formules idéologiques.
Oui, alors Gary Becker est né en 1930 en Pennsylvanie dans une famille modeste. Après des études à Princeton, il rejoint l'université de Chicago où il soutient sa thèse sous la direction de Milton Friedman. Il y fera presque toute sa carrière. Becker appartient à l'école de Chicago, mais il en incarne une branche très particulière. Non pas celle de la monnaie ou de la macroéconomie, mais celle de l'analyse du comportement individuel. Son apport majeur est d'avoir fait exploser les frontières traditionnelles de l'économie. Avant Becker, l'économie mainstream s'occupait essentiellement des marchés, des prix, de la production et de la consommation. Lui part d'une idée simple, mais radicale. L'économie est avant tout une science du choix humain. Dès lors qu'il y a rareté, arbitrage et incitation, le raisonnement économique est pertinent, y compris hors du marché. Becker applique les outils économiques à des domaines qu'on pense jusque-là réservés à la sociologie ou à la psychologie. La criminalité, la famille, le mariage, la fécondité, l'éducation et même l'addiction. Sa méthode est toujours la même, analyser les comportements comme le résultat de coûts et de bénéfices anticipés, même lorsque ces coûts ne sont pas monétaires. En réalité, Gary Becker a fait pour la praxéologie de Mises, pilier de l'économie autrichienne, ce que la microéconomie moderne exigeait. Il l'a formalisé, testé et appliqué, quitte à en perdre la radicalité philosophique, mais en gagnant une puissance analytique considérable. La grande différence entre les deux auteurs tient au statut de la rationalité. Chez Mises, agir, c'est être rationnel au sens de l'action orientée vers des fins. Chez Becker, les individus se comportent comme s'ils maximisaient une fonction d'utilité sous contrainte.
Et quelles ont été ses principales contributions?
Alors, son article fondateur sur la criminalité, publié en 1968, est emblématique. Becker y montre qu'un individu commet un délit lorsque le gain espéré est supérieur au coût attendu, c'est-à-dire la probabilité d'être sanctionné, multiplié par la peine encourue. Cette approche inspire directement les politiques publiques modernes, efficacité de la dissuasion, arbitrage entre sévérité des peines et probabilité de contrôle, débat contemporain sur la politique pénale. L'analyse économique de la famille est une autre contribution majeure. Becker modélise le ménage comme une unité de production où se combinent travail rémunéré, travail domestique et investissement dans le capital humain des enfants. Il montre comment les choix éducatifs et les décisions de fécondité ou la spécialisation au sein du couple répondent à des incitations économiques. Ces travaux ont profondément influencé l'économie du travail, l'analyse des inégalités hommes-femmes et les politiques d'éducation.
Becker est également l'un des pères du concept moderne de capital humain.
L'éducation, la formation, la santé ne sont pas seulement des dépenses sociales. Ce que nous montre Becker, ce sont en effet des investissements qui augmentent la productivité future. Cette idée irrigue aujourd'hui les travaux sur la croissance, les inégalités, le développement et même la politique industrielle. Le capital humain est au cœur des analyses du développement économique. Ce qui rend Becker toujours novateur aujourd'hui, c'est que son approche permet de comprendre des phénomènes très contemporains. arbitrage face à la fiscalité, réaction aux politiques de subvention, comportement face aux normes environnementales ou sanitaires. Becker nous rappelle que les individus s'adaptent, contournent, arbitrent. Ignorer cette capacité d'adaptation conduit souvent à des politiques inefficaces, voire contre-productive. Ses héritiers intellectuels sont nombreux. Steven Levitt, connu pour cette série sur les Freakonomics. Kevin Murphy poursuit ses travaux sur le capital humain et les inégalités. Plus largement, toute une partie de l'économie empirique moderne, économie de l'éducation, du crime, de la famille et de la santé, s'inscrit dans le sillage de Becker. À l'heure où le Nobel d'économie 2025 a mis en lumière l'innovation et le capital humain, Gary Becker apparaît plus actuel que jamais. Le moteur du progrès n'est pas la technologie seule, mais l'investissement dans les compétences et les incitations à apprendre et à entreprendre.
Merci beaucoup Nathalie, on vous retrouve lundi tout de suite, l'actualité musicale avec Laure Maison. Il est 6h25, bonjour Laure.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Au programme ce matin, un spectacle onirique alliant musique et art du clown.
Et oui, un spectacle qui s'annonce absolument magique, dirigé par la chef d'orchestre mexicaine Alondra de la Parra, qu'il a imaginé avec la clown Gabriela Muñoz, et qu'elle donnera samedi 24 janvier au Théâtre des Champs-Élysées. Alors cela s'intitule The Silence of Sound, un titre qui fait donc référence à cet art silencieux du clown, mais également à l'importance de la notion de silence, qui est aussi un élément de la musique. Alors il y aura une trame dramatique, une histoire, il y est question de résilience, de confiance en soi, de conflit entre un groupe et un chef, cela sous la forme d'un conte de fées au caractère presque initiatique. Un spectacle à plusieurs lectures possibles et qui s'adresse à tous les publics. Alors Alondra de la Parra nous parle de cet univers du clown qui la touche tant et qui lui a inspiré ce programme.
Yes, and in this case, the clown...
Et dans ce cas, le clown n'est pas un clown drôle. C'est plutôt un clown dans la lignée du clown Marceau. L'idée d'associer le clown et l'orchestre m'est venue quand j'ai vu Gabriela sur scène. J'ai réalisé qu'elle vit dans un monde de silence, alors que nous, musiciens, nous vivons dans un monde de son, mais un monde sans mouvement. Elle s'exprime à travers le mouvement sans bruit. Cela avait donc du sens pour moi de combiner les deux univers, afin de raconter une histoire, celle des plus grandes musiques du répertoire classique, comme Brahms, Prokofiev, Sibelius, à travers son jeu, et ainsi d'emporter le spectateur dans un voyage ludique.
Thank you.
Le final de la symphonie classique de Prokofiev par Alondra Della Parra, à la tête ici de la Philharmonie allemande de Brême, l'une des musiques qui ponctue ce spectacle The Silence of Sound, à découvrir samedi le 24 janvier au Théâtre des Champs-Élysées, dirigé par Alondra Della Parra.
Merci Laure, on vous retrouve ce soir à 20h. Dans un instant, le journal de 6h30, juste après nous parlerons innovation avec Nicolas Bouzou qui ce matin va se pencher sur la nouvelle génération de lunettes à réalité augmentée. Il est 6h29, la météo. Avec Charles Bonner, bonjour Charles.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Des nuages et de la douceur.
Des nuages ultra majoritaires aujourd'hui et qui donnent des pluies assez marquées sur les Cévennes, beaucoup plus faibles du sud-ouest au centre cet après-midi. La Manche retrouve des éclaircies, les températures 10 à Lille et Bourges, 12 à Strasbourg et 13 à Lyon.
6h, 7h, la matinale écho de Radio Classique. Avec Stéphane Pedrazzi.
Et avec Charles Bonner pour le journal de 6h30.
Avec à la une ce matin, un recul. Après les menaces, Donald Trump s'est laissé convaincre de ne pas attaquer l'Iran pour le moment. En France, le gouvernement renonce au vote sur le budget et hésite entre 49-3 ou ordonnance. Et puis l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, discuté aujourd'hui à l'Élysée en l'absence d'un acteur majeur.
Et puis les partenaires sociaux attendent toujours la réponse du gouvernement sur la réforme de l'assurance chômage. On y revient en détail dans le journal de l'économie. Donald Trump est passé en l'espace de 24 heures de la menace à la volte-face.
Symbole de son imprévisibilité ou de ce sobriquet attribué par l'opposition, taco pour Trump always chickened out. En français, Trump se dégonfle toujours, attribué après les allers-retours sur les droits de douane pour négocier. Mais sur l'Iran, après les menaces mardi et l'apaisement le lendemain, il semblerait qu'autre chose l'ait motivé, Servane de Pastre.
Tout semblait prêt pour une intervention. Mardi, le département d'État demande aux ressortissants américains de quitter immédiatement l'Iran. Dans le même temps, la base militaire américaine d'Al Udeid au Qatar, visée par des missiles iraniens en juin dernier, est sommée d'évacuer. Et pourtant...
Il y a des hésitations de la part du président américain.
David Rigoulet-Rose est chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique.
Il sait que c'est pas la même situation que le Venezuela. Et il y a eu un débat très soutenu au niveau du Conseil de sécurité nationale, avec deux lignes divergentes. J.D. Vance, qui était partisan de l'option non militaire, la négociation, et puis la position plus martiale de Marco Rubio.
Des dissensions internes et des mises en garde, notamment de la part de l'Arabie Saoudite, du Qatar et d'Oman.
Ils lui ont fait valoir qu'il y avait un risque de réplique incontrôlée et incontrôlable au niveau régional. Et il y a évidemment le passif de la guerre en Irak en 2003, qui avait coûté très cher dans tous les sens du terme aux Américains.
Selon le chercheur, l'intervention militaire des États-Unis n'est pas annulée, seulement suspendue. Des négociations ont lieu en ce moment. Les prochains jours seront donc déterminants pour fixer les perspectives de sortie de crise.
Intervention à laquelle s'est également opposé Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, lors d'un appel avec Donald Trump. Selon la Maison-Blanche, 800 exécutions sont suspendues en Iran. Donald Trump, qui a reçu hier la lauréate du prix Nobel de la paix, l'opposante vénézuélienne Maria Machado, qui raconte avoir offert au président américain sa médaille de Nobel. Donald Trump a salué, je cite, un geste magnifique.
6h32 sur Radio Classique. En France, faute de majorité à l'Assemblée, le gouvernement renonce au vote sur le budget.
Sans avoir décidé de la solution. Il n'y en a que deux. Un, le recours au 49-3, mais qui exposerait le gouvernement à des motions de censure. Ou deux, les ordonnances. Ce serait une première, un budget sans vote du Parlement et une censure probable, mais qui arriverait après l'entrée en vigueur du budget. En conclusion, il n'y a aucune bonne solution, concédée hier le ministre des Relations avec le Parlement, Laurent Panifous.
Malgré la volonté constante du gouvernement de créer les conditions d'un vote, nous constatons que ce vote ne pourra pas avoir lieu. Le Premier ministre fera donc des propositions dès demain pour permettre une promulgation d'un budget. En conséquence, les journées de demain, mais aussi lundi soir, qui étaient initialement dédiées aux travaux sur ce même budget, ne seront donc pas ouvertes. Je vous remercie.
Il n'y aura donc pas de discussion aujourd'hui, Laurent Panifous. Hier, à l'Assemblée nationale, et donc faute de discussion, le Parti socialiste promet de faire des propositions dans la journée. Peut-être qu'ils participeront finalement en visioconférence, les leaders du FLN-CAES, le mouvement indépendantiste calédonien, à la Réunion, aujourd'hui à l'Élysée, pour évoquer l'avenir institutionnel de l'archipel, quelques mois après l'accord de Bougival-Victoire Fort.
En juillet dernier, après 3 référendums sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, l'accord de Bougival donnait une esquisse de l'avenir institutionnel du territoire. Accord rejeté au mois d'août par le FLNKS. Mais l'Élysée ne veut pas fermer la porte à double tour et ambitionne d'arriver lundi à un document complémentaire pour des explications et des éclaircissements, relate un conseiller d'Emmanuel Macron. Pas de passage en force, pas de paralysie non plus, fait savoir le palais. L'exécutif se montre confiant, mais marche toutefois sur des œufs. L'Élysée ne parle même plus de l'accord de Bougival, mais de l'accord du 12 juillet et affirme que le texte pourrait peut-être changer de nom. Dans ce contexte, cette réunion doit servir aussi à aborder la question de l'économie de la Nouvelle-Calédonie, fortement secouée depuis les émeutes de 2024. L'Élysée veut poursuivre, coûte que coûte, le dialogue.
Des moyens supplémentaires envoyés au Groenland, des moyens terrestres, aériens et maritimes. C'est ce qu'a détaillé, sans aller plus dans le détail, Emmanuel Macron hier lors de ses vœux aux armées. Cette mission conjointe décidée face aux menaces russes et chinoises, selon l'Allemagne.
Et puis on termine par le premier tour de l'élection présidentielle ce week-end au Portugal.
Et c'est une première depuis 1986. Il y aura un second tour, car au Portugal, le président, en général, est élu dès le premier et signe de l'incertitude. Cinq candidats pourraient se qualifier, Nina Droff.
Ils sont au coude à coude. 5 candidats sur les 11 en lice ont encore une chance d'accéder au second tour. Une élection très incertaine, symbole d'une scène politique en pleine recomposition au Portugal, explique Yves Léonard, historien spécialiste du pays.
Vous avez eu, à travers les dernières élections, il y en a eu plusieurs au Portugal, depuis 2024, des élections législatives anticipées, des élections locales, qui ont un petit peu fragilisé ce système consacrant deux partis qui alternaient au pouvoir, de centre-gauche à centre-droite. Ça s'est un petit peu avec un effritement. On a une scène compliquée, fragmentée, ce qui évidemment donne à cette élection une tonalité très incertaine.
Un trio semble tout de même se dégager. Le candidat socialiste Antonio José Seguro, le candidat libéral Joao Cotri, mais enfin annoncé en tête le candidat d'extrême droite André Ventura, qui pourrait atteindre le second tour pour la première fois.
Ventura est très clivant. Des prises de position qui tournent autour des questions, on va dire, de sécurité et d'immigration, des sorties médiatiques qui ont défrayé la chronique. Il focalise sur son nom un intérêt fort d'une partie de l'électorat, notamment chez les jeunes.
Selon l'historien André Ventura, a cependant peu de chances de l'emporter au second tour. Il estime que beaucoup de Portugais ne sont pas prêts à voter pour son parti.
Les explications de Dina Droff. Et puis la France a connu sa 4e année la plus chaude en 2025, selon les données de Météo France. Les 3 premières sont récentes, 2022, 2023 et 2020.
Merci beaucoup, c'était le journal de Charles Bonner. Dans 5 minutes, le journal de l'économie, mais juste avant, on parle innovation avec Nicolas Bouzou.
Pour garantir la réussite de votre transformation, faites équipe avec Valtus, leader français et mondial du management de transition. Depuis 25 ans, nous sécurisons vos transformations et vos projets stratégiques. Valtus, c'est 60 000 dirigeants expérimentés dans 28 pays, mobilisables immédiatement. Partenaire de l'édito Eco, Valtus réalise plus de 1 000 missions chaque année.
Vous pouvez choisir une voiture pour sa motorisation hybride rechargeable, pour son autonomie totale allant jusqu'à 900 km ou pour son design emblématique. Mais vous la choisirez parce que c'est une Audi. En ce moment, profitez de l'Audi A3 Sportback TFSIe à partir de 390€ par mois sans apport. Réservez votre essai sur audi.fr ou chez votre partenaire Audi.
Autonomie maximale selon données WLTP. Offre LLD aux particuliers sur 37 mois et 30 000 km jusqu'au 15 février dans le réseau participant sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur audi.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Courrier international présente Goodbye America. En un an, à la Maison-Blanche, Donald Trump a sapé les fondements de la démocratie américaine. Une dérive autoritaire accompagnée d'une révolution culturelle qui bouleverse le pays. Comment en est-on arrivé là? Comment les Américains le vivent-ils? Un hors-série de Courrier international, en vente chez votre marchand de journaux.
Depuis 50 ans, vous accompagnez face aux enjeux de la vie des affaires et la vocation de Del Sol Avocat. À l'écoute des besoins des acteurs de l'économie, nous proposons au-delà des conseils juridiques et judiciaires, une véritable stratégie d'entreprise. Del Sol Avocat, la qualité de la relation. Et avec Del Sol Avocat, retrouvez les voix de l'économie chaque matin sur Radio Classique.
La matinale écho de Radio Classique avec Stéphane Pedrazzi.
Un monde de progrès, comme tous les matins, avec Nicolas Bouzou. Bonjour Nicolas.
Bonjour Stéphane.
Aujourd'hui, nous faisons le point sur une innovation dont on parle beaucoup en ce moment, les lunettes à réalité augmentée. À quoi est-ce qu'elles servent réellement ?
Alors Stéphane, vous savez, ces lunettes à réalité augmentée, elles placent des éléments numériques comme des images, des données, des informations directement dans le champ de vision de l'utilisateur. Alors très concrètement, cela signifie qu'un professionnel peut voir des instructions techniques en surimpression lors de la réparation d'une voiture, un chirurgien peut voir des repères visuels sur son champ opératoire, un touriste peut recevoir des traductions ou des indications géographiques en temps réel, juste devant les yeux. Ces lunettes peuvent aussi servir à jouer ou à de la consommation multimédia en offrant par exemple un écran virtuel pour regarder des vidéos sans casque. La proposition de valeur de ces lunettes, c'est d'intégrer le numérique au quotidien sans interrompre l'attention portée au monde réel. Contrairement à nos smartphones ou à nos tablettes, ces lunettes permettent une interaction main libre en quelque sorte, ce qui évidemment est un atout pour la productivité quand il s'agit de travailler, la sécurité, puis ce qui est sympathique en matière d'expérience immersive.
Nicolas, ça fait des années qu'on en parle de ces lunettes. Est-ce qu'il y a eu des progrès importants ?
Vous avez raison Stéphane, on en parle depuis longtemps, mais l'année 2025 et le début de 2026 ont montré une accélération technologique significative. Des modèles plus accessibles ont été présentés avec des lunettes légères qui intègrent de l'intelligence artificielle, qui sont adaptées à un usage tout au long de la journée. On voit aussi des efforts pour standardiser les systèmes d'exploitation de ces lunettes, ce qui devrait faciliter l'apparition d'applications plus riches et variées. Bon, ceci dit, les usages professionnels et spécialisés dans l'industrie, la médecine, la logistique ou la formation progressent plus vite que l'adoption par le grand public qui reste encore en gestation. Mais les progrès récents suggèrent que cette proposition de valeur des lunettes de réalité augmentée, elle est de plus en plus tangible, tant pour enrichir les tâches quotidiennes que pour révolutionner véritablement certaines pratiques professionnelles.
Mais qui sont les acteurs économiques présents sur ce marché des lunettes à réalité augmentée ?
Je ne vous étonnerai pas, Stéphane, on retrouve toujours les géants technologiques américains, les fameux GAFA. Meta a déjà lancé des lunettes connectées avec des fonctions très haut de gamme. Elle prépare des versions très avancées qui intègrent directement des affichages en réalité augmentée. Google, de son côté, développe des lunettes à réalité augmentée dans le cadre de sa plateforme Android XR. Elle s'est associés à des acteurs traditionnels pour proposer des modèles grand public. Apple reste attendu sur ce segment. Amazon travaille à un modèle grand public de lunettes attendu pour la fin de l'année 2026, ce qui illustre combien de grandes plateformes veulent capter une part de ce marché naissant, mais qu'elles jugent désormais stratégique.
Ça va marcher, à votre avis, Nicolas ?
Écoutez, nous sommes tous les deux des porteurs de lunettes, donc en tout cas, je vous propose d'essayer.
Ouais, moi j'ai un petit peu du mal lorsqu'une personne est en face de moi avec un objectif sur ses lunettes. Je me demande toujours ce que la personne est en train de filmer. Merci beaucoup Nicolas, on se retrouve lundi.
Union des coopératives agricoles françaises, Invivo s'engage pour une agriculture résiliente, souveraine, rentable et durable. Invivo accompagne la transition agricole et soutient notre souveraineté alimentaire avec des solutions innovantes et responsables au service des agriculteurs. Avec Invivo, cultivez vos connaissances éco dans le décryptage à 7h54 sur Radio Classique.
Être libre. Libre d'entreprendre, de donner vie à ses projets, d'investir dans ce qui compte. Être libre, c'est aussi dépenser son argent sans se justifier. Bougardier présente le PLP, le prêt libre patrimoine. Grâce à la valeur de votre patrimoine immobilier, le PLP vous permet de libérer une trésorerie de confort à partir de 100 000 euros. Avec le PLP, votre argent vous obéit enfin. Découvrez le nouveau prêt libre patrimoine sur bougardier.fr. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Le journal de l'économie sur Radio Classique.
Avec GSF Propreté et Services, acteur du service aux entreprises, et sa filiale Pénélope, leader de l'accueil.
Trois titres à la une de l'économie. Le gouvernement renonce à faire voter le budget 2026. Ordonnance ou article 49.3, les deux options sont sur la table, confirme la ministre des Comptes Publics. L'inflation continue de ralentir en France. Elle est retombée à 0,8% l'an dernier, très en dessous de la moyenne des autres pays européens. Et puis après 25 années de rebondissement, l'accord de libre-échange avec les pays du Mercosur va être signé demain au Paraguay, malgré l'opposition de la France. Après 2 mois et demi de négociations et de débats sur le budget 2026, il n'y aura plus de discussion à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Le gouvernement a annoncé cette nuit l'annulation des débats qui devaient avoir lieu aujourd'hui et lundi et s'apprête finalement à passer en force. La ministre des Comptes Publics, Amélie de Montchalin, l'a confirmé. Deux options sont maintenant sur la table. Une ordonnance budgétaire ou l'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution. Le gouvernement qui n'a par ailleurs toujours pas répondu aux attentes des partenaires sociaux, ils ont validé un calendrier calendrier de négociation sur la réforme de l'assurance chômage, mais refusent que le gouvernement leur impose un objectif en matière d'économie. Éric Mauban.
C'est ça, les partenaires sociaux réclament le retrait de la lettre de cadrage envoyée par l'ex-premier ministre François Bayrou. Elle les invitait à négocier une nouvelle fois sur l'assurance chômage, dans le but de dégager 2 milliards d'euros d'économies par an dès 2026 et jusqu'à 4 milliards en 2030. Les syndicats réclament par ailleurs l'agrément d'un avenant réduisant la portée du système de bonus-malus sur les contrats courts, mais également la parution d'un décret d'application réduisant de 6 à 5 mois la durée minimale d'affiliation au cours des 24 derniers mois, et ce pour les primo-entrants à l'assurance chômage. Organisations syndicales et patronales se sont données jusqu'au 25 février pour parvenir à un accord sur les ruptures conventionnelles sur lesquelles le gouvernement leur a demandé de dégager 400 millions d'euros d'économies. Un objectif financier jugé insuffisant par les organisations patronales. Elles veulent revoir plus largement les conditions d'indemnisation des demandeurs d'emploi pour dégager 1 milliard d'euros d'économies. Quant aux négociations sur les contrats courts, et bien les partenaires sociaux se donnent pour objectif de parvenir à un accord pour le 25 mars.
Merci beaucoup, Éric Mauban. L'ancien ministre de l'économie, Éric Lombard, a quant à lui relancé le débat sur la taxation des plus hauts revenus. Il affirme que des milliers de Français, parmi les plus riches, ne payent aucun impôt sur le revenu. Des affirmations qui ont été démenties par l'actuel ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin. L'inflation continue de ralentir en France. Elle est retombée l'an dernier à 0,8% selon les chiffres de l'INSEE, très en dessous des 2% qui avaient été enregistrés en 2024. C'est également inférieur à la moyenne des autres pays européens. Bonjour Christian Parizeau.
Bonjour.
Conseiller économique pour Aurel BGC, est-ce qu'une inflation très faible, c'est forcément une bonne nouvelle, ou est-ce que ça peut également présenter des inconvénients ?
Alors c'est vrai qu'une inflation trop forte, c'est un risque, mais une inflation trop faible aussi, hein, ça traduit plusieurs choses. Ça traduit d'abord et avant tout une demande, une consommation qui est particulièrement peu dynamique, qui laisse pas la possibilité aux entreprises de relever leurs prix. Alors on pourrait se dire oui, mais c'est peut-être plus de pouvoir d'achat pour les ménages, mais en échange, ça montre aussi qu'on a des ménages français qui aujourd'hui préfèrent épargner plutôt que consommer. Et ça montre aussi qu'il y a peut-être des capacités de production excédentaires en France, ce qui fait que ça met une pression sur les prix de vente. Et puis surtout, lorsqu'on atteint des niveaux comme 0,8%, on n'est pas à l'abri de ce qui fait vraiment peur aux économistes. Hein. C'est ce qu'on appelle la déflation, c'est-à-dire un recul généralisé des prix. Hein. Si on était sur des prix qui devenaient négatifs, ça signifie que les ménages pourraient différer leurs achats dans le temps en espérant que les prix baissent. Et à ce moment-là, souvent, ça, c'est très, très mauvais pour les entreprises qui voient leurs marges sous pression et qui voient aussi un ralentissement de la croissance. Donc, c'est pas forcément une très, très bonne nouvelle quand l'inflation est trop faible.
0,8% d'inflation en France, c'est très en dessous des chiffres de 2024, mais c'est aussi largement en dessous de l'inflation de nos partenaires européens. Comment est-ce qu'on l'explique ?
Alors l'inflation en France est un peu moins forte, liée essentiellement à la distribution. On sait que c'est un secteur qui est très concurrentiel et lié surtout à une demande intérieure qui est très faible et qui empêche les entreprises françaises, notamment dans le secteur des services, à relever leurs prix. On voit aussi en France un tassement des salaires qui est peut-être un peu plus fort que par exemple en Allemagne. Et donc on voit aujourd'hui que clairement les entreprises n'ont pas la capacité à relever les prix et de l'autre, on a des salaires qui ralentissent. Donc tout ça fait qu'on est dans un environnement très peu inflationniste en France.
Merci beaucoup Christian Parizeau, conseiller économiste pour Aurel BGC. Les tarifs bancaires vont augmenter de 3% cette année selon l'association de consommateurs CLCV. C'est très largement au-dessus de l'inflation. Comment expliquer une telle augmentation des tarifs bancaires ? Écoutez les explications de Philippe Crevel. Il est directeur du Cercle de l'épargne.
C'est lié évidemment au coût que supportent les banques au niveau de l'informatique, au niveau de la lutte contre tout ce qui est cybersécurité. Et donc, il y a une nécessité pour les banques de faire passer, on va dire, des frais. Et les banques, en plus, ont une nécessité de renforcer leurs fonds propres et donc de dégager des résultats positifs pour respecter l'ensemble de la réglementation prudentielle européenne. Mais évidemment, il faut que cela ne se répercute pas d'année en année. Je dirais qu'on est aujourd'hui sur des niveaux de frais qui sont non négligeables pour les épargnants comme les titulaires de comptes courants.
Après deux années de récession, l'Allemagne a retrouvé le chemin de la croissance, plus 0,2% l'an dernier. Ça reste évidemment très fragile. Le secteur industriel, l'un des principaux moteurs de l'économie allemande, est toujours en grande difficulté. Le patronat continue de s'inquiéter et réclame des mesures de soutien de la part du gouvernement. Le traité de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur va être signé demain au Paraguay, malgré l'opposition de la France. Avant cette signature officielle, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et Antonio Costa, le président du Conseil européen, vont faire un détour par Rio aujourd'hui. Le Brésil est en effet un partenaire commercial de poids. Il représente 80% des échanges entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Comment expliquer cette hégémonie du Brésil, Zoé Pallier ?
Au début des années 70, le peuple brésilien souffre encore de la faim. L'État décide donc de recruter les meilleurs ingénieurs agronomes au monde. Ces derniers travaillent pendant des années au sein d'un institut public pour apprendre à exploiter les sols acides du centre du pays, à développer des produits phytosanitaires et des OGM, organismes génétiquement modifiés. La transformation est spectaculaire. Aujourd'hui, l'industrie agroalimentaire représente un quart de l'économie et un emploi sur cinq dans le pays. Les exploitants exportent presque partout dans le monde du soja, des oranges, du café ou encore de la volaille et des bovins. Le groupe JBS, petite boucherie familiale devenue géant industriel, est le premier employeur au Brésil. Il concentre 25% du marché mondial de la viande et dégage 375 milliards de chiffre d'affaires par an. Le secteur agricole brésilien est donc un des plus compétitifs au monde et chaque année la production continue à augmenter.
Le président américain Donald Trump est actuellement sur tous les fronts au niveau international. Arrestation de Nicolas Maduro au Venezuela, des frappes au Nigeria, menaces sur l'Iran, convoitise sur le Groenland et sur Cuba. Le président américain qui se voulait au départ faiseur de paix agite désormais l'étendard de la guerre. Mais paradoxalement, il ne faut pas y voir la recherche de conflit, mais plutôt une manière, dans un style très offensif, de faire du business, Eric Kioch.
Pour Donald Trump, les opérations militaires servent avant tout à faire du profit. Au Venezuela, par exemple, la chute de Nicolas Maduro ouvre la voie aux entreprises américaines pour y exploiter le pétrole. En Ukraine, les investisseurs américains s'arrachent déjà les contrats pour la reconstruction du pays ou pour l'exploitation des terres rares. Mais le grand gagnant de cette politique reste l'industrie de l'armement, selon l'économiste Mathieu Coutenier.
Sur les 100 plus grandes entreprises mondiales militaires, il y en a 41 qui sont américaines. Et quand on regarde un peu l'évolution des profits pour ces 100 plus grandes entreprises, entre 2010 et 2023-2024, on est passé de à peu près 400 milliards de chiffre d'affaires à aujourd'hui à peu près 630 milliards.
Dont la moitié a été empochée par les industriels américains. Une aubaine pour un Donald Trump qui souhaite capitaliser sur cette instabilité géopolitique. Il veut ainsi interdire aux entreprises de défense d'acheter des actions ou de reverser des dividendes avec ses bénéfices records. Objectif, les inciter à investir plus pour produire plus. Le message est clair, il y aura de la demande et il faudra y répondre. D'ailleurs, il a d'ores et déjà annoncé une augmentation du budget militaire américain de 50% pour le porter à 1500 milliards de dollars en 2027.
Les marchés financiers, la bourse de Paris hier soir a terminé en baisse de 0,21%, le CAC est à 8313 points. Le chiffre du jour, un Français sur deux voudrait changer de travail en 2026. C'est un chiffre issu du premier baromètre de l'Amour Pro réalisé par Chance en partenariat avec YouGov, réalisé sur un échantillon assez large de 50 000 personnes. On en parle avec Ludovic de Gromard. Bonjour.
Bonjour Stéphane.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le cofondateur de Chance. C'est le leader de l'orientation professionnelle des adultes. Est-ce que ce chiffre de un Français sur deux qui veut changer de travail cette année n'est pas un peu surprenant dans le contexte économique actuel? Généralement, quand l'économie va mal ou pas très bien, on a plutôt tendance à ne pas vouloir prendre de risques.
Vous savez Stéphane, en France, on ne manque pas de travail, on manque d'amour pro. Selon ce même baromètre, vous avez 4 Français sur 5 qui se sentent en déphasage avec leur quotidien professionnel.
Donc ils changeraient de travail par défaut?
De manière hyper proactive. C'est-à-dire que vous aviez, par rapport à votre remarque, on pensait que ce désamour des Français avec leur travail était passager post-Covid et qui était un effet du Covid. Mais en fait, ce qu'on comprend, c'est que c'est structurel et que désormais, la norme n'est pas d'aimer son travail, elle est de l'endurer.
Vous n'aimez pas votre travail ?
J'aime mon travail.
Bon,
et vous, Stéphane ?
Moi, j'aime beaucoup le mien.
Vous avez rencontré l'amour pro, donc ?
Oui, absolument. On sait que l'intelligence artificielle va changer le panorama. Certains métiers vont évoluer, peut-être même disparaître. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des personnes aujourd'hui sur le marché de l'emploi qui veulent anticiper plutôt que de subir les effets négatifs pour eux de l'intelligence artificielle.
Vous savez, les chiffres changent, mais on parle de 1 milliard de jobs qui vont être détruits, radicalement changés d'ici à 2030 dans le monde. Donc c'est quelque chose d'absolument structurel et on en parle très peu dans les médias, mais les gens prennent de plus en plus la mesure de ça par la pratique et par la prise de conscience de ce que peut faire l'intelligence artificielle dans leur quotidien. Donc ça, combiné avec tendanciellement l'allongement des carrières, les gens se posent de plus en plus de questions, se résignent de moins en moins et s'apprêtent à changer de plus en plus.
Vous êtes un professionnel de l'orientation professionnelle des adultes. On dit souvent que ceux qui arrivent aujourd'hui sur le marché de l'emploi changeront de métier plusieurs fois dans leur vie. C'est vrai ?
Je pense qu'on fait un raccourci quand on parle de changement de métier, parce qu'en fait, il y a trois types de changements possibles. Quand vous sentez que vous n'êtes pas exactement à votre place, il y a trois potentiel scénario. Premier scénario, changer de métier, effectivement. Le deuxième scénario, et sur les 40 000 personnes qu'on a accompagnées, c'est grosso modo 50% des gens. Ensuite, le deuxième scénario, c'est de ne pas changer de métier, mais de changer d'entreprise, parce que vous n'êtes pas exactement au bon endroit. Ça, c'est 30%. Et le troisième, c'est pas de changer de métier, pas de changer d'entreprise, mais changer d'équilibre. Changer de type de mission, de vos relations avec votre manager, de compléter votre travail, ça représente 20%.
Responsabilité.
Niveau de responsabilité, potentiellement. Oui.
Vous êtes spécialisé notamment dans les bilans de compétences. Quelles sont les bonnes questions à se poser sur ses motivations, sur ses aspirations, avant de sauter le pas et de changer d'employeur ou même de métier?
On a le premier conseil, ça serait, vous savez, on parle souvent, on dit un travail, c'est un métier, un secteur. C'est simpliste. On a développé chez Chance une définition du travail qui est le modèle CIPA, CIPA, qui veut dire C, c'est la contribution. C'est en quoi je suis utile par mon travail, qui est votre motivation extrinsèque. Le I, ce sont les interactions. Quel type d'environnement de travail, quelle relation avec votre manager, plus ou moins hiérarchique, plus ou moins autonome, plus ou moins perfectionniste, etc. Le P, c'est votre vie perso. Vous avez certains impératifs financiers, géographiques, horaires.
Et des enfants, éventuellement.
Des enfants qu'il faut récupérer à la crèche tel jour, vous pouvez pas faire autrement, et donc une certaine charge financière. Et le A sont vos activités quotidiennes. Donc là, c'est votre motivation intrinsèque, c'est ce que vous faites et ce qui vous apporte un certain plaisir dans
et
ce que vous faites.
Et ces quatre piliers doivent entrer en compte pour, ou pas, choisir de changer de travail.
C'est la première chose à faire. En fait, la première chose à faire, c'est définir vos critères CIPA, et ensuite, vous allez explorer si une piste professionnelle est alignée avec vos critères CIPA. Ça serait le premier conseil. Et j'en ai un deuxième qui est de... Parce que avoir un projet, c'est bien. Avoir un projet réalisé, c'est beaucoup mieux. Et pour ça, il faut pouvoir rencontrer les bonnes personnes qui vont vous ouvrir la bonne porte, in fine, pour concrétiser ce que vous avez construit.
Il nous reste très peu de temps. Une dernière question. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que les gens cherchent plus de sens?
Qu'est-ce que c'est le sens? On parle beaucoup de sens, mais qu'est-ce que c'est le sens? C'est le sens pour Stéphane, le sens pour Ludovic, c'est pas le même. Le sens, il est individuel, et donc le sens, c'est l'alignement avec votre CIPA. Et l'alignement avec votre CIPA, c'est ça qu'on appelle rencontrer l'amour pro. Et Stéphane, j'espère que vous l'avez rencontré et que beaucoup d'auditeurs, d'auditrices vont le rencontrer de plus en plus dans les années à venir.
Vous voyez l'harmonie ce matin dans ce studio. Merci beaucoup d'être venu ce matin, Ludovic de Gromard, cofondateur de Chance. 6h56 à suivre dans un instant. David Abiker pour la matinale jusqu'à 9h.
Samedi prochain, retrouvez la chronique « Bleu comme le monde » avec Caroline Forge.
Cette semaine, je vous propose de découvrir une innovation technologique qui, grâce à l'IA, détecte les fuites sur les réseaux d'eau.
« Bleu comme le monde », le rendez-vous dédié à la préservation de l'eau sous toutes ses formes, chaque samedi à 8h54 sur Radio Classique.
« Bleu comme le monde » avec Banque Populaire, la banque de la voile et du surf, engagée pour la préservation de l'eau.
Vous aussi, vous cherchez ? Où et comment placer votre argent? Pour vos placements en bourse ou en assurance vie, rien de plus simple avec Bourse Directe. Suivez nos formations, investissez, épargnez, le tout à moindre frais. Et ça, c'est important. Avec Bourse Directe, vivez vos placements autrement. Risque de perte en capital. Courtier d'assurance numéro Orias 08 044 344. Communication promotionnelle.
6h57, dans un instant, le journal, puis la matinale de David Abiker.
Aesio Mutuel présente.
Dis donc, tout en trop, c'est moi ou t'as pris du muscle?
Ah non, j'ai croisé Météos ce matin et vu ses prévisions, j'ai mis 8 toges.
Ah oui, mais enfin, Météos, elle débute, hein, elle est pas toujours fiable.
Là, t'as chaud, non?
Parfois, il vaut mieux être bien couvert que trop couvert. Aesio Santé Essentielle, c'est la couverture santé simple et claire, recentrée sur ce qui vous sert vraiment et jusqu'à 20% moins cher que la concurrence. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Étude comparative réalisée par Minalea en 2025 sur des offres non responsables à prestations équivalentes. Détails et informations sur aesio.fr.
La météo de ce vendredi avec Lénaïque Monnier, le temps sera gris et humide aujourd'hui.
Oui, une matinée calme et nuageuse sur l'ensemble du pays, hormis sur les Cévennes où les pluies vont tomber toute la journée. Cet après-midi, le ciel va rester couvert sur les trois quarts du pays et c'est en Alsace, mais également sur le Cotentin, que vous pourrez espérer avoir quelques éclaircies. Les températures, il fait 8 degrés à Bordeaux ce matin, 5 à Rennes et 3 à Strasbourg. Et cet après-midi, comptez 13 à Biarritz et Marseille, 10 à Orléans, Le Havre et Paris.
C'est presque un matin à rester sous la couette, à écouter David Abiquière qui prend la relève jusqu'à 9h. Bonjour David.
Bonjour Stéphane et bonjour à tous.
Et au sommaire ce matin, la cuisine budgétaire.
Sébastien Lecornu use de la métaphore culinaire justifiant prendre son temps pour finaliser le budget. Pas question de bâcler, dit-il, on va bien ficeler le rôti, travailler la farce tous ensemble, et une fois que le rôti sera au four, on ne va pas rouvrir pour rajouter le pruneau. Je ferme les guillemets. Le journal L'Opinion redoute surtout la tambouille de la taxation des riches. Le budget et son interminable mijotage. On vous en dit plus ce matin dans les journaux de la rédaction et avec Marcelo Vesfred dans les coulisses de la politique dans 25 minutes. La cuisine, la vraie, on vous en parlera avec Gauthier Battistella, ancien responsable éditorial du Guide Michelin. Il publie Bocuse aux éditions Grasset, le roman biographique du plus grand chef français. Le chroniqueur gastronomique sera l'invité de la matinale à 8h15. Avant cela, Christian Macarian évaluera la viabilité de la seconde phase du plan de paix américain pour Gaza, annoncé avant-hier par Steve Witkoff. Juste après, le Figaro fête son bicentenaire. Mais qui était vraiment Figaro? Augustin Lefebvre a mené l'enquête pour son journal imprévisible. Yann Lequin est lui l'homme qui veut rendre l'intelligence artificielle vraiment intelligente. Il a quitté Facebook pour ça. Décryptage à 8h05 par David Barou.